Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous, content d'être avec vous sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, la radio qui va de Muret jusqu'au pied des Pyrénées, avec un monsieur qui a usé de la semelle et qui a réparé de la semelle. On va le dire comme ça, c'est Stéphane Chadourne. Stéphane Chadourne, bonjour.
Bonjour à tous, plutôt je pourrais vous dire Adichat.
Stéphane Chadourne, votre premier métier c'était cordonnier ou ressemmeleur, c'est ça?
Alors, le métier que j'ai fait le plus longtemps, effectivement, j'étais cordonnier, très rapidement spécialisé dans l'escalade et la montagne.
Ce sont des chaussures spéciales, c'est pour ça?
Oui, c'est un métier de cordonnier, sauf que les matières, les collages, les process sont très adaptés au matériel d'escalade et aux chaussons d'escalade et chaussures de montagne, voilà.
Donc aujourd'hui, vous êtes à la retraite et vous avez décidé de faire un périple à pied et pas de le faire n'importe où et n'importe comment. C'est quoi exactement?
Oui. Je marche depuis très longtemps, je vous l'ai dit, j'étais cordonnier spécialisé dans la montagne, c'est pas pour rien, je suis passionné de montagne, j'ai toujours marché. Je marche encore beaucoup et je m'étais promis, dès que le travail me laisserait du loisir, disons, de faire un voyage à pied. Évidemment, qui dit voyage dit pays à visiter et ou itinéraire. Et il faut choisir son périple très précisément et consciencieusement, disons. Beaucoup de mes amis à qui je soumettais ça me disaient « Mais tu vas aller faire Compostelle ?» Non, parce que moi, Compostelle, c'est pas que je n'aime pas, ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde, et donc je préfère être un peu plus, entre guillemets, solitaire. D'autre part, moi, je suis un fervent défenseur de la langue occitane, militant de longue date au sein des calendrettes. Pour très rapidement, les calendrettes sont les écoles qui font tout l'enseignement en occitan. Et il m'est venu très vite l'idée de relier les calendrettes, donc de ce qu'était Midi-Pyrénées, c'est-à-dire 18 écoles, pour à peu près un parcours de 1000 km que j'ai fait entre début avril 2023 et mi-juin 2023.
Donc voilà. C'est pour ça qu'on vous appelle le passeur, voilà. Parce qu'en fait vous êtes allé de calendrette en emmenant un message à chacune des écoles, c'est bien ça?
Exactement. Alors, j'ai trouvé un nom qui était le passeur, comme vous l'avez très bien traduit en français, le passeur, puisque l'idée, c'est quand même un projet pédagogique que j'ai construit avec les enseignants des écoles calendrettes. L'idée étant de trouver un fil rouge pour mon projet, qui était d'amener un message d'une école à l'autre. Un message, évidemment, physique, c'est-à-dire un papier, un objet, etc., que je prenais dans une école et que j'amenais dans l'école suivante. Donc, quelque chose de très simple, mais qui a donné lieu à une fantastique aventure tout le long où, effectivement, les enfants des calendrettes, qu'on appelle des calendrous, préparaient soigneusement le message, le colis que je devais transporter. Et j'étais toujours très attendu dans l'école suivante pour raconter évidemment mon périple et amener un message qui souvent n'était qu'un bout de papier, mais qui était attendu comme le plus beau des cadeaux. Voilà.
Ça, c'était l'idée de départ. L'idée de départ, donc faire un voyage, je dirais, qui soit instructif pour vous, qui vous plaise par rapport à vos motivations personnelles, qui est quand même la défense et le déploiement de la langue occitane, si mes souvenirs sont bons. Et donc, à l'occasion de ce voyage, vous avez eu loisir de visiter une grosse partie de l'Occitanie. Vous êtes parti de Toulouse à Tarbes pour ce premier voyage, et le second, en fait, c'est de s'insérer à Toulouse, c'est bien ça?
Voilà, exactement. Donc, très vite, Toulouse, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège et Hautes-Pyrénées, et les vacances de Pâques étant arrivées, je suis arrêté quelques jours, et je suis reparti du nord du Lot, en traversant le Lot, l'Aveyron, le Tarn, et revenir en Haute-Garonne, où la boucle était bouclée en revenant à Toulouse, voilà. Au début, donc, un projet axé sur la marche, le vagabondage randonnesque, je vais dire, et l'occitan, évidemment, et effectivement, ce projet pédagogique avec les calendrettes, et j'en attendais pas moins, je vous l'avoue, en partant, très vite, des rencontres, des situations, des aventures, carrément, je vais le dire, qui se sont proposé à moi complètement de façon inattendue ou en tout cas qui n'était pas prévue. Et notamment au niveau des rencontres, les gens, beaucoup, mais aussi le manque de gens.
C'est ça. Quand vous êtes à pied comme ça, parce que vous n'avez pas pris des grosses routes et pas pris des nationales, que les petits chemins, les routes vicinales, les routes départementales, les sentiers. Vous êtes complètement immergé au sein de ce territoire, dans cette nature. Vous l'avez vu, cette nature. Et donc, c'est un petit peu le sens de notre émission aujourd'hui. C'est avec l'association Mille Pattes. C'est donc, comment est la nature aujourd'hui? Comment est notre paysage agricole aujourd'hui?
Alors, quand on voyage à pied, c'est pas pour voyager au milieu des voitures. Donc, quand on cherche un itinéraire, comme ça, on cherche au maximum à éviter les voies les plus dynamiques, actives, en tout cas, éviter tout ce qui est motorisé, voiture, camion, etc. Et le truc, c'est que moi, je fais un itinéraire qui n'est pas un itinéraire touristique, où il y a beaucoup de gens qui marchent sur ces itinéraires, même si j'ai fait des petits bouts de chemin très recensés pour ça. Mais la plupart du temps, j'étais dans des endroits où les gens ne marchent jamais. Et donc, je me suis trouvé complètement immergé au sein du territoire. C'est une sensation que moi, je n'avais pas du tout appréhendée en partant. C'est, je vais marcher, et puis voilà, quoi. Et quand on marche comme ça, alors, évidemment, c'est surtout l'Ariège et les départements du nord de ce qu'était Midi-Pyrénées. Je pense qu'ici, tous les gens comprendront, c'est-à-dire le Lot, mais surtout l'Aveyron et le Tarn, où effectivement, je me suis rendu compte très vite de quelque chose, c'est que je voyageais dans un désert. Un désert, pas le Sahara, on s'entend bien, évidemment. Un désert humain. Et ça m'a sauté carrément à la figure. Et cette réflexion, alors vous l'avez dit, c'est quand même très, il faut le répéter, on est plutôt dans une émission consacrée qui s'appelle « La clé des champs » et consacrée, entre guillemets, au monde agricole et au travers des actions de l'association Mille Pattes, dont je fais partie et où je suis membre actif. Et c'est cette perception du monde agricole, de travail, de ce que c'est le travail des agriculteurs, des paysans, etc. J'y suis très sensible. Et évidemment, moi, en circulant dans des paysages agricoles, des territoires agricoles, avec des champs cultivés, du bétail partout, vaches, moutons, porcs, etc. On en voit absolument partout. Les champs très bien cultivés, on voit bien. Donc il y a l'utilisation des machines, des tracteurs, mais beaucoup, beaucoup d'endroits où on ne rencontre absolument personne.
Ce qui veut donc dire que vous étiez livré à vous-même sur votre parcours, d'une part, et en parallèle, ce qui ressort un petit peu ce que vous dites maintenant, c'est que les agriculteurs sont aussi seuls sur leurs tracteurs et dans leurs champs.
Alors, c'est ça qui est évidemment le plus important là-dedans. Parce que moi, après tout, c'est mes loisirs et je me promène et ça n'a aucune importance si je ne rencontre personne, même si j'adore rencontrer les gens. Mais c'est cette réflexion-là qui très vite m'est venue et la marche a cet avantage, et Jean-Jacques Rousseau le dit très bien dans beaucoup de ses ouvrages, la marche est le meilleur moyen de philosopher, quoi, le meilleur moment, pardon, pour philosopher. Et donc ça m'est venu comme ça, presque, je veux dire, comme une claque, quoi. C'est-à-dire, ces gens qui habitent là, puisque je traversais des cours de ferme, je traversais des villages, évidemment, qui n'étaient pas du tout abandonnés, ces tracteurs que j'apercevais au loin, qui travaillaient dans les champs, je me disais, eux, c'est leur quotidien d'être dans des endroits où il n'y a que très très peu de monde. Ça ne veut pas dire que ces gens-là vivent seuls ou n'ont pas de vie sociale, mais comparé aux gens qui vivent, même sans parler des villes, même dans une région comme ici, autour de Rieux-Volvestre, il y a quand même un peu d'activité et beaucoup de gens. Ces gens vivent isolés, très isolés, peut-être pas socialement, quoique, je ne sais pas, mais en tout cas, pour tout ce qui est le fait du travail, on touche du doigt le fait que l'agriculture est devenue un travail solitaire. Moi, j'en ai pris conscience, mais je l'ai pris même physiquement, cette réflexion, et confirmée, effectivement, par les rencontres que j'ai faites de ci, de là, parce qu'évidemment, j'ai rencontré du monde quand même, et des agriculteurs qui, me voyant passer, alors qu'ils ne voient passer jamais personne, faisaient un détour ou arrêtaient leur tracteur au milieu du champ, pour venir à ma rencontre, pas parce qu'ils étaient désespérés, mais parce que ça, c'était, je voyais bien que c'était un moment important pour eux de pouvoir parler à quelqu'un au milieu de leur journée, tout simplement.
Ça fait remonter pas mal d'images, en fait, sur ce qu'on appelle l'imagerie d'Épinal du monde agricole et des territoires ruraux sur notre France, France agricole à la base. Ça, c'est sur l'agriculteur qui est seul dans son champ. Mais est-ce que, avec votre parcours à pied, donc à travers une grosse partie de l'Occitanie, du nord au sud, de Saint-Céré jusqu'à Tarbes, vous avez vu des changements par rapport à votre imaginaire dans ce paysage agricole? Vous avez parlé de désert tout à l'heure, des grands champs vides.
Merci de me poser cette question. Effectivement, mon imaginaire, il a été vraiment chamboulé, dans le sens où, il faut le dire, on parle énormément de désertification, mais moi, je suis passé dans des paysages, surtout le Lot, l'Aveyron, le Tarn, qui sont, mais alors, très très bien entretenus, très cultivés, où on voit bien que la présence humaine y est. Et quand on circule et qu'on tombe sur des jours de beau temps, bon, c'est une petite parenthèse, mais dans ce périple, pendant deux mois et demi, je n'ai pas eu plus de 2 jours de beau temps de suite. Mais j'ai quand même eu du soleil. Mais c'est ça qui est frappant, c'est que quand on voit l'image d'Épinal, on voit des paysages de campagne bucoliques, toujours avec des gens.
Et à taille humaine.
Et à taille humaine. Tout ça n'existe pas. Pour moi, plus. Je le dis, mais vraiment tranquillement, parce que 2 mois et demi, c'est pas long, mais c'est long. Quand on est un peu comme ça, lâché dans la nature, pas dans la nature, dans le territoire. Le territoire est cultivé, le territoire est entretenu, entre guillemets, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais les gens qui m'écoutent comprendront. Mais il n'y a plus ce facteur humain. Pour moi, le facteur humain, il est passé un peu en dessous du reste. C'est-à-dire que un territoire vivant, pour moi, c'est un territoire avec des hommes et des femmes.
Ça veut dire que c'est ça, vous avez dit le mot, ça manque de vie.
De vie humaine. C'est ce qui m'a frappé. Et au début, j'ai dit, bon, mais écoute... Puis évidemment, bon, moi, quand je raconte, quand je reviens et tout, quand j'ai eu fini, je raconte, j'en parle à tout le monde. Il me dit, ah oui, mais à ce point quand même, mais c'est vrai que t'as raison, on n'y fait pas attention, parce que quand on va un week-end ou comme ça, ce qu'on veut, c'est... C'est être au calme, c'est profiter de la nature et tout. Et c'est vrai qu'on ne fait jamais attention au fait qu'on ne voit pas grand monde quand on va dans ces coins-là. Alors, d'un autre côté, c'est engageant hein, pour les gens qui veulent vraiment, qui haïssent le genre humain. Mais pour les gens qui y vivent et qui y travaillent, je ne pense pas que ça soit quelque chose de possiblement durable.
Et d'épanouissant et on a besoin des autres.
C'est quand on... goûte à la solitude qu'on apprécie les autres. Mais je pense que quand on aime quelque chose et qu'on en mange, qu'on en goûte de trop, au bout d'un moment, c'est plus bon.
L'autre casquette que vous avez également, c'est que vous êtes élu local.
Oui.
Est-ce que cette traversée, je vais l'appeler comme ça, cette traversée du territoire et cette prise de conscience de cette solitude, entre guillemets, des terres agricoles et parfois même des agriculteurs, ça a modifié, ça peut avoir une incidence sur votre réflexion en tant qu'élu?
Alors oui, en tant qu'élu, mais même au-delà, en tant que, en fait, moi je me situe peut-être beaucoup plus comme un militant politique que j'aime pas, mais un militant citoyen. Voilà, je me situe beaucoup plus comme un militant citoyen, avec des réflexions sur ce qu'est notre société, le mode, comment on l'administre et comment on vit ensemble, quoi. Il est évident que la réflexion qui me vient là, c'est « ça va pas ». Par rapport à mes expériences d'élus ou de militantisme, qu'ils soient associatifs ou autres, ça va pas. On a d'un côté des territoires qui sont complètement pollués, asphyxiés, etc. Et des territoires où l'isolement est complètement prégnant. Et je dis « qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ?» Et voilà, alors là, c'est ma réflexion d'élu. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout ça évolue? Là, aujourd'hui, je vous avoue, je n'ai pas la réponse. Hein. Mais déjà, si les gens qui vraiment sont en capacité de prendre les décisions avaient vraiment quelquefois cette réflexion, je pense qu'on pourrait très facilement améliorer notre façon de vivre ensemble. Voilà.
L'agriculture est confrontée à un double problème. Le premier, c'est... trouver des solutions agricoles pour que l'agriculteur puisse vivre de son activité localement et produire et que ces produits soient transformés et distribués localement, ça c'est la première chose.
Exactement.
Mais malgré tout, deuxième chose, et vous l'avez dit tout à l'heure également, c'est que l'agriculture sert au tourisme. Et l'agritourisme est de plus en plus prégnant.
Alors, le vrai problème, c'est, quelles que soient les façons d'imaginer l'agriculture, quelles que soient les techniques, les sciences qu'on peut développer, il en faut et il y en a, autour de l'agriculture, jamais on ne la fera sans les hommes. Voilà. Pour moi, c'est... Je ne suis pas agriculteur, mais s'il y a un agriculteur qui me dit non par rapport à ça, je suis prêt à, à mettre ma main sur la table à couper que je n'en rencontrerai pas. Sans homme, il n'y a pas d'agriculture. Et ce qu'a besoin avant toute chose d'agriculture, c'est le côté humain, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui vraiment font ce... C'est pas un travail. Pour moi, l'agriculture, c'est pas un travail. C'est quelque chose d'indispensable à la vie de tout le monde et nourrir les hommes, quoi de plus noble. Et donc, les hommes, ils ont besoin de vivre ensemble. Depuis les temps préhistoriques, c'est comme ça. Et les hommes, ils sont faits pour recevoir les autres hommes et vivre avec les hommes, les femmes. Hein. D'accueillir comme de se faire accueillir. Voilà. Et effectivement, plus on est isolé et plus on a de mal à trouver du monde, à s'intégrer, je pense. Voilà, je pense.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une trop forte segmentation de l'agriculture ? On est passé de l'agriculteur à l'exploitant agricole, mais on ne s'occupe plus de la terre comme on s'en occupait avant.
Je ne suis pas entièrement d'accord, et notamment de mon histoire, mais aussi de façon prégnante avec les actions, les rencontres que j'ai au sein de Mille Pattes. Moi, je pense que cette idée d'exploitant agricole qui est là pour une mission économique de produire et de générer des revenus, je pense qu'elle commence un peu à avoir du plomb dans l'aile. Voilà. Beaucoup d'agriculteurs que je rencontre en ce moment disent « Oui, on a un métier et tout ce qu'on veut, c'est en vivre décemment. Nous, ce qu'on veut, c'est avant tout vivre. » Voilà. Et ça, moi, j'en suis persuadé, et ça n'engage que moi, mais dans les 50-60 dernières années, vouloir appliquer des méthodes industrielles à un système agricole qui, de toute façon, sera toujours basé sur les qualités et les compétences des hommes est voué à l'échec. On ne remplacera pas les agriculteurs, les paysans, par des machines. Et on est au bout de ce raisonnement maintenant et on commence à peine à dire oui, effectivement, le facteur le plus important pour que nos territoires vivent, pour que nos paysans puissent produire de quoi nourrir le pays, reposons-nous avant tout sur les qualités humaines et leurs compétences et surtout leur qualité de vie pour qu'ils puissent rester là et continuer à faire leur métier. Voilà.
Puis il y a des choses qui seront difficilement remplaçables aussi, c'est-à-dire c'est la connaissance. La connaissance de cette terre, la connaissance du travail qu'on ne peut pas mettre dans un ordinateur et puis cette prescience quelque part de savoir que ben là, tiens, c'est une année où je vais faire ça.
Moi, je suis un peu gêné parce que je connais beaucoup d'agriculteurs qui s'exprimeraient bien mieux que moi là-dessus. Mais le fait d'être un consommateur ou tout simplement un citoyen attentif quoi à cette grande cause nationale qui est le fait de nourrir le pays, il est évident que les hommes, c'est la base de ce qui amène les compétences, le savoir-faire, la connaissance de la terre, du territoire, la connaissance des saisons, du climat, c'est évident. Et que moi, je reste persuadé. Une fois, je le répète, certains agriculteurs seraient bien mieux placés que moi pour le dire. Je reste persuadé qu'on ne remplacera jamais des générations de paysans par des machines, des ordinateurs ou des politiques pensées ici ou là, quoi.
Et juste pour terminer, est-ce qu'à votre avis, c'est un conseil que vous donneriez aux gens qui nous écoutent d'un moment donné de prendre des chaussures et d'aller marcher un petit peu en dehors des grands axes ?
Oui, et pour beaucoup de raisons. La première, je dirais, on est quand même dans un moment de notre civilisation où on voit bien qu'on a des gros problèmes avec notre façon de consommer, de nous déplacer, etc. Et franchement, voyager à pied, c'est tellement simple et c'est tellement enrichissant des paysans. C'est une vraie aventure, voilà. voyager à pied. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un voyage où j'ai été pendant plus de deux mois, dans un monde, une vraie aventure et dans un monde que je découvrais. Et je n'ai jamais été à plus de 200 km de chez moi. Et il y a des moments où j'avais l'impression d'être au bout du monde. C'est l'expression qu'on utilise. La deuxième chose, c'est quand on est à pied, si vous voulez rencontrer des gens, si vous voulez rencontrer justement ces paysans, mais pas que, qui vivent dans le territoire, circulez à pied. En voiture, alors peut-être en vélo, bon. Mais sur des moyens mécanisés qui vont très vite et tout, vous ne rencontrez pas les gens. Vous rencontrez les gens qui vous attendent dans un hôtel, enfin dans un camping ou quoi, mais vous ne rencontrez pas les gens. À pied, les gens, en plus vous êtes à pied, donc vous êtes complètement inoffensif pour tous les gens. J'ai rencontré que des gens bienveillants, voilà, qui venaient vers moi et qui me demandaient si j'avais besoin de quelque chose. On a toujours besoin de quelque chose, un peu d'eau, parler tout simplement, un peu de respirer, de répit quoi, dans la marche, etc. Donc, rencontrer les gens. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que si vous faites l'effort de voyager à pied, vous ferez tellement de bien à la planète, en tout cas à votre environnement et à votre porte-monnaie, tout simplement.
Et à votre corps également, par l'exercice physique que ça génère.
Mais voilà. Que des avantages. Et de toute façon, ce n'est pas pour rien que de plus en plus de gens prennent cette façon de voyager, tout simplement, à pied.
Et pas la peine d'aller très loin non plus.
Vraiment, si moi je devrais résumer en une phrase mon périple, l'aventure est au bout de la rue. Vraiment, l'aventure est au bout de la rue.
Pour les auditeurs qui aimeraient savoir un peu plus sur votre périple, il y a un site internet où on peut avoir un petit peu d'histoire, des anecdotes et des photos de ce que vous avez fait.
Très simple, loupassaire.fr. Voilà, des photos, des témoignages, l'explication du périple, loupassaire. Alors évidemment, c'est de l'occitan, donc loupassaire.fr. Voilà. Puisqu'en occitan, tout ce qui se dit « ou » en fait est un « o » ou « on ». Le « ou » pratiquement n'existe pas, le « ou » n'existe pas en occitan. Quand vous entendez « loup », quand vous entendez « loustal », quand vous entendez « pichou », en fait c'est des « o ».
Stéphane...
Ça c'est... Je ne peux pas m'en empêcher.
Le côté militant. Stéphane, merci beaucoup d'être venu sur Radio Galaxy nous présenter votre parcours et surtout cette vision, cette claque, je vais le dire comme ça, cette image qui vous a été imprimée sur le monde paysan d'aujourd'hui et sur les paysages de cette Occitanie, Midi-Pyrénées essentiellement malgré tout, du nord au sud. Merci d'être venu et puis écoutez, peut-être un autre périple plus tard.
Des Ségues, il n'y a pas ce briquet des problèmes. Alcop Québé.
Adieu.